Les femmes ont une sexualité de service et elles ne le savent pas. Bienvenue sur le podcast Cœur de Michto, où je te raconte comment mon expérience dans le monde de la prostitution m'a donné des outils pour hacker le patriarcat. Je suis Ellie et j'anime des ateliers sur l'égalité amoureuse. Bienvenue dans cet épisode capsule, c'est un format court, je choisis mes thèmes avec mes abonnés sur Instagram. Si tu as une question ou un sujet qui te tient à cœur, retrouve-moi sur Insta, Cœur de Michto, tout attaché. Alors aujourd'hui on va parler de la grille tarifaire du nude, qui est une réponse au dernier épisode où je parlais de la grille tarifaire de la dick pic. Alors si tu te souviens bien, je parlais un peu de quelles sont les prestations qui peuvent correspondre à la dick pic pour démontrer qu'à nouveau encore on est dans un acte où ce n'est pas le gars qui fait du travail sexuel pour l'autre mais plutôt le gars qui attend du travail sexuel de l'autre. Et donc y a beaucoup de dick pic qui en fait devrait être où le gars devrait payer pour avoir le droit d'envoyer sa dick pic. Cet épisode il m'a été inspiré par une sexologue que je suis qui racontait comment régulièrement elle recevait des photos de bites de gars qui prétendaient que comme c'était une sexologue pouvait donner son avis sur cette photo. Et même des configurations où les gars demandaient avant, comme si c'était bon, qu'ils avaient géré cette question de consentement en demandant l'autorisation avant. Cet épisode a reçu plusieurs réactions. J'ai notamment eu un message de cette sexologue qui m'a parlé de comment elle se sentait quand ces gars, même en proposant avant, en demandant avant, faisaient semblant que c'était normal d'envoyer une dick pic à une sexologue. Et je crois que ce qu'elle m'a raconté, c'est très emblématique de la raison pour laquelle certaines féministes sont très en colère contre les travailleuses du sexe. Quand je parle de la grille tarifaire, je parle d'un point de vue situé, d'ancienne prostituée qui a expérimenté ce que c'était d'être sollicitée pour des services sexuels, de la place de quelqu'un qui a considéré que c'était ok, que je pouvais vendre des services sexuels, que j'ai accepté de faire ça. Je suis donc, naturellement, par rapport à mon expérience, assez désensibilisée à ce sujet. C'est un sujet qui est devenu un peu plus banal pour moi, un peu plus acceptable dans ma sphère. Parce que j'ai pris cette décision dans cette société qui me laissait pas le choix d'être sexualisée en permanence, de moins être payée pour. Et je reconnais que pour beaucoup de femmes, c'est difficile de répondre avec autant de légèreté à quelqu'un qui envoie une dick pic en envoyant simplement la facture. Parce que, simplement, en fait, même si cette société, elle reconnaît que naturellement on doit du sexe au mec, elle le reconnaît un peu implicitement, elle le reconnaît pas ouvertement. Elle déguise cette complaisance avec ses relations asymétriques derrière des discours sur la valeur de l'amour, du sacrifice pour l'autre, des besoins sexuels. Et jamais elle dit ouvertement « nous attendons des femmes qu'elles soient des putes gratuites ». Mais de fait, c'est une attente de la société. Des mecs font semblant de ne pas le savoir, de ne pas le reconnaître, et les meufs sont souvent extrêmement blessées quand on leur rappelle. Parce que c'est pas normal en fait, on devrait pas pouvoir expliquer à n'importe quelle nana que de base, par défaut, elle est une pute gratuite. Alors moi, même si ça m'amuse de leur envoyer la grille tarifaire pour leur faire comprendre que s'ils partent du principe que je suis une pute, au moins qu'ils me payent, c'est tout à fait légitime que tu ressentes toutes sortes d'émotions quand on te fait cette remarque-là, quand on te rappelle que les femmes sont considérées comme des putes, c'est-à-dire comme des travailleuses du sexe, comme des femmes qui exercent un travail en direction des hommes de nature sexuelle. Je trouve donc que c'est un bon miroir de parler de la grille tarifaire du nude pour parler de cette thématique de cette case imposée aux femmes en permanence, de leur rôle de travailleuse du sexe. Alors dans les commentaires, quelqu'un m'a demandé mais du coup c'est quoi la grille tarifaire pour les nudes ? Donc j'en ai parlé dans l'épisode sur le sujet de la grille tarifaire. Je rappelle, pour les nudes, dans le monde du travail du sexe, un nude ça coûte une dizaine d'euros, quelques dizaines d'euros. Mais c'est pas la bonne réponse, parce que ce que cet abonné me demande, c'est pas combien valent les nudes sur le marché du sexe, mais combien valent ses nudes à elle, ceux qu'elle envoie dans le cadre intime. Donc déjà, premièrement, j'aimerais rappeler que les prix du marché du sexe aujourd'hui sont artificiellement baissés, tirés vers le bas par la précarité. En fait, plus les femmes sont précaires, plus elles sont prêtes à faire beaucoup pour être payées, plus le prix de ce qu'elles proposent va baisser. C'est économique, c'est mécanique, et ça veut pas dire que ce qu'elles proposent n'ont pas de valeur. Je rajouterai également que le prix est également artificiellement tiré vers le bas par la valeur qu'accorde la société au travail des femmes, qui continuellement prétend qu'il ne vaut pas grand chose puisqu'il serait acquis. Donc déjà de base, un nude professionnel, donc un nude qui correspond à une intimité dissociée, de mon point de vue, par rapport à ce que ça représente en compétences, parce que ça demande du temps en fait de s'entraîner pour savoir qu'est-ce qui est le plus excitant, comment gérer la partie lumière, la mise en scène, etc., ça devrait être plus cher. Du coup là j'invente ma propre grille tarifaire imaginaire d'un monde qui serait pas aussi pété d'un point de vue économique. Et d'un monde qui serait un peu moins malaisant par rapport aux attentes face aux femmes, je pense que un nude, ça correspondrait plutôt à quelque chose de l'ordre de centaines d'euros. Mais là encore, ça ne répond pas à la question. Parce que là, c'est un nude qui correspond à une intimité dissociée. Et donc on peut se demander bah, combien coûte un nude qui correspond à une intimité qui n'est pas dissociée. Une intimité qui correspond à qui a une destination, qui est adressée à une personne en particulier avec qui on est intime. Avec qui on est fragile, avec qui on se met littéralement à poil. Et si la personne qui m'a posé la question a rappelé qu'effectivement la rareté influait sur le prix et qu'aujourd'hui, comme c'était quelque chose qui était moins rare, ça avait baissé les prix vers le bas, eh bien on va parler de la rareté, de l'intimité non dissociée. Dans cette société, qu'une femme se sente si à l'aise avec quelqu'un qu'elle se sente ok avec l'idée d'envoyer une photo d'elle nue dans une posture séduisante, qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour ça, mais aussi qu'elle en ait l'envie, qu'elle en ait le désir, eh bien c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable et qui est extrêmement rare. Ça me rappelle un petit peu cette pratique qu'il y a dans le monde du travail du sexe, où quand on envoie un nude, souvent la personne va demander qu'on écrive son nom sur nous pour prouver que c'est pas une photo qu'on envoie à 50 000 personnes. Une pratique qui m'était très mal à l'aise, que je détestais parce que j'avais l'impression de signifier que j'étais la propriété de quelqu'un. Quelque part, je trouvais ça plus avilissant d'écrire le nom de quelqu'un sur moi que d'envoyer un nude. C'était bien un marqueur du fait que cette rareté augmente la valeur. Et si aujourd'hui je pourrais sans problème faire un nude que j'enverrais à beaucoup de gens ou je ferais quelque chose un peu de l'ordre du travail en série, en fait, une photo qui est à destination commerciale pour but d'être vendue à beaucoup de personnes, ben si je me pose la question de me dire combien de personnes j'aurais envie d'envoyer une vraie photo d'un vrai nude authentique, d'un nude qui est intime, qui correspond à une intention. Qui correspond à une pensée vers l'autre, de me dire tiens, j'aimerais lui faire plaisir, j'aimerais lui plaire, j'aimerais l'exciter. Et ben là, en fait, le nombre réduit vraiment drastiquement. Et puis ensuite, si je me pose la question, combien de fois par jour, par semaine, par mois, me vient cette envie-là, cette pulsion de don, cette envie de créer quelque chose de séduisant avec l'autre, destiné vraiment à cette personne? Là encore, on va vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus rare que si j'étais en train de créer une entreprise de nude où le but serait de créer un produit commercial. Et là, en termes de rareté, en fait, on atteindrait des tarifs stratosphériques. C'était d'ailleurs la conclusion de l'article de Maya Mazoret qui citait la grille tarifaire pour dire que bah, cette sexualité intime, elle, par contre, n'avait pas de prix. Ce prix est tellement stratosphérique que c'est difficile de mettre un chiffre dessus. Alors, au lieu de parler de chiffres, de te donner une somme qui correspondrait au prix que vaudrait ce nude intime, ce nude entre guillemets de femme libre qui a le choix de sa sexualité, qui n'exprime sa sexualité que d'une manière authentique, que d'une manière spontanée, et pas d'une façon commerciale et dissociée. Eh bien, à la place, je vais essayer de donner un équivalent en nature. Qu'est-ce que je voudrais en échange de ce nude? Eh bien, en premier, pour être intime, le prix à payer pour être face à moi dans ma version la plus intime, c'est de me faire me sentir en sécurité émotionnellement. Pour me faire me sentir en sécurité émotionnellement, ben, il y aurait le temps passé à apprendre à nous connaître, la consistance de me montrer régulièrement que c'est une personne sur qui je peux compter, une personne en qui j'ai confiance. Ce serait la réciprocité, savoir que la personne en face est aussi mue par une profonde envie de me plaire, de m'exciter. Et puis je crois surtout que ce qui compterait beaucoup pour moi serait que toute cette attention, ce temps partagé, ce soin à me faire me sentir en sécurité, cette envie de me plaire, cette envie de me séduire, soit donnée sans attente, en me laissant la totale liberté d'exprimer ma pulsion de don ou de ne pas en avoir. Parce que tout ce prix à payer, ce prix de cette sécurité, de ce désir réciproque, serait un prix nécessaire, mais non suffisant. Parce qu'il suffit pas de vouloir me plaire et de se comporter bien avec moi pour susciter mon désir. C'est au prix de cette absolue liberté que pourrait éclore mon désir spontané et sincère. Alors s'il faut absolument comparer la pulsion de don avec les activités commerciales des travailleurs du sexe, on dirait qu'il existerait sur le marché certaines prostituées qui ont une caractéristique qui serait de ne pas dissocier leur sexualité. Ces femmes-là auraient des clients qui dépenseraient des quantités d'argent faramineuses pour consacrer du temps, de l'énergie, de la présence, pour pouvoir avoir le droit de les séduire, d'essayer de leur plaire. Ces prostituées-là ne se sentiraient pas redevables, pas coupables de ne pas forcément délivrer de prestations parce qu'elles seraient vraiment conscientes compte de la valeur de cette intimité, de la valeur que ça a de simplement pouvoir avoir le droit d'essayer de leur plaire, d'essayer de les faire se sentir en sécurité. Ce type de client serait particulier parce que la plupart des clients payent pour avoir un service, eux, paieraient par pulsion de don, eux aussi, sachant que cette pulsion de don ne donne droit à rien en échange. Et il y aurait deux issues possibles. Celle où ces prostituées de l'intime spécial se rendraient compte qu'aucune pulsion de don ne vient. Elles pourraient exprimer leur appréciation d'avoir été aussi bien traitées et puis mettre fin à l'échange. Ces clients seraient ravis qu'elles aient pu recevoir leur pulsion de don avec autant de générosité à ce moment-là. L'autre issue possible serait qu'une connexion se crée et qu'une pulsion de don naisse chez cette prostituée de l'intime, une pulsion vraiment libre, et que l'échange continue, renforcé mutuellement par des pulsions des dons et du client et de la prostituée. Ce serait compliqué de distinguer client et prostituée parce que les clients seraient aussi capables d'être vulnérables, d'être intimes aussi, d'être dans des pulsions de dons équivalentes. Et on finirait par se rendre compte qu'il n'y a plus de prostituées et plus de clients, qu'il y a juste deux personnes qui sont dans une pulsion de dons et dans une générosité de recevoir les pulsions de dons. À ce jour, il est compliqué d'avoir des situations comme ça, puisque on a des hommes qui se comportent comme des clients et des femmes qui pensent qu'elles sont redevables. Alors d'un côté, je comprends bien pourquoi certaines féministes sont très en colère contre les travailleuses du sexe, parce que quand on parle d'un échange monétaire, elles ont l'impression que tant qu'il y aura des femmes qui vendent, il y aura des hommes qui achètent. Et tant qu'il y aura des hommes qui achètent, il y aura des hommes qui considèrent que les femmes sont achetables. Je pense que c'est pas la faute des femmes qui vendent que les hommes pensent que les femmes sont achetables, ni même que les hommes pensent que les femmes doivent du travail sexuel. En m'apprenant la valeur du sexe dissocié, la prostitution m'a appris à quel point la valeur du sexe non dissocié était encore plus grande. Je crois non seulement qu'il faut arrêter de donner en échange de rien, mais je crois surtout qu'il faut arrêter de donner à ceux qui croient qu'on leur doit. Et on est arrivé à la fin de cet épisode capsule, j'espère qu'il t'a plu. Passe me raconter en commentaire qu'est-ce qui te fait te sentir toi en sécurité dans ta vie perso. Je t'envoie du love et je te dis à bientôt.